Un autre point de vue sur les commémorations de la guerre 14-18 dans la région. On a contacté, pour avoir ça par téléphone, un membre du collectif Artois. Il s'appelle David Robillard. Il est passionné de la Grande Guerre depuis l'âge de 4 ans.
C'est-à-dire, on est déjà dans une région, malheureusement, qui a été fortement marquée par cet événement tragique. Et j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère qui a connu cette grande guerre et qui habitait Bully-Grenay à l'époque et qui m'a expliqué les terrifiants combats de la grande guerre parce que eux ils attendaient et ces bruits terrifiants, ils voyaient aussi les soldats qui habitaient avec les habitants à l'époque, hein, dans les maisons, dans les granges, dans les fermes. Et son mari était parti faire la grande guerre aussi et malheureusement, il est décédé en 1923 des conséquences de la Grande Guerre à cause du gaz. Il avait été gazé en 1917. Donc, quand on a un jeune enfant et qu'on voit ces choses-là, ça marque. Ça marque l'esprit. Puis ensuite, on se rend compte qu'on est entouré de lieux extraordinairement marquants, comme Notre-Dame de Lorette, qui est quand même la plus grande nécropole de France, de la Grande Guerre pour l'armée française, mais également aussi le cimetière de Neuville-Saint-Vaux, qui est... vous avez tous ces tombes noires qui vous regardent, c'est vraiment très très marquant. Et puis aussi, ensuite, vous vous intéressez à l'histoire de ces hommes, parce que tout le monde connaît les généraux, les quelques dates importantes comme le 11 novembre, ou l'attaque de Lorette du 9 mai 1915, mais ce qui est intéressant, c'est l'histoire de ces hommes, parce qu'il y avait cette petite histoire, ces anecdotes, par exemple, vous avez des courriers où on explique les conditions de vie dans les tranchées, la boue, d'ailleurs, les gens qui ont combattu en Artois seront appelés les boueux de l'Artois, car il faut savoir que sur les combats, par exemple, de Notre-Dame de Lorette, Carentis, Ablain, les gens pataugeaient dans la boue, parce que ce sont des villages où il y avait beaucoup de sources, même la colline de Lorette, beaucoup de sources. Et sur Aix-Noulette, par exemple, en bas de la colline, les troupes françaises étaient à 80, voire 1 mètre de boue et d'eau dans les tranchées. Donc tout ça, ça marque les esprits, et puis on se rend compte qu'ils avaient 20 ans. Ils sont partis à 20 ans, ces gens-là, donc c'est quand même impensable. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, on ne serait même pas capable de le faire une journée. Quand on se rend compte, par exemple, quand ils partaient à l'arrière, après 4 jours en première ligne, ils repartaient des fois 4 jours à l'arrière, on leur faisait faire nettoyage du paquetage, revue par le colonel du régiment, et ensuite on leur faisait faire des marches d'exercice, des marches de 40-50 km d'exercice avec le paquetage, alors qu'ils avaient déjà été en combat ou en tranchée, quoi. Donc... Et puis aussi les conditions avec la vermine, les poux, les puces, la pollution du sol, les camarades qui tombaient, l'odeur du sang. Enfin, c'est vraiment, je pense, une des pires tragédies que l'humanité a connues, la Grande Guerre, quoi.
Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous vous définissez comme un historien local? Est-ce que c'est pour vous un hobby, une passion, ou est-ce que vous faites ça de manière plus professionnelle? C'est-à-dire que vous essayez d'en vivre?
Alors, je vais plutôt me définir comme un historien local, mais également un passeur de mémoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut transmettre ces sacrifices qu'ont connus cette jeunesse il y a 100 ans, pour dire plus jamais ça, parce que malheureusement aujourd'hui au 21e siècle il y a encore des guerres partout. On a la chance de vivre en paix depuis plus de 70 ans et tant mieux, c'est que du bonheur, même si on a des difficultés économiques actuellement dans la vieille Europe, mais c'est important de transmettre le sacrifice pour justement honorer la mémoire de ces gens, mais surtout éviter qu'un jour ça recommence en Europe, quoi, parce que c'est dramatique, la guerre. J'ai mon arrière-grand-mère qui disait toujours, tu sais, un soldat n'est beau qu'en musique. Et c'est vrai, un soldat n'est beau qu'en musique. Quand vous voyez le défilé du 14 juillet à Paris, vous voyez tous ces musiciens, c'est joli à regarder, c'est exceptionnel. Mais un soldat avec un fusil, quelque part, c'est dramatique, quoi. C'est dramatique.
Alors, je reviens à vous, à votre travail. Comment ça se passe, en fait? Il y a un travail d'investigation? Vous faites des fouilles? Vous faites des recherches?
Alors, des fouilles, non, parce que c'est pas mon hobby. Moi, ce que je fais, c'est des recherches pour les familles. Il y a beaucoup de familles qui m'écrivent, qui nous téléphonent, par exemple, au collectif Artois, hein, à Bully-les-Mines, hein, dont je suis membre avec M. Chopin, M. Cornet, et puis tous les autres, hein, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais donc, et on reçoit les familles. J'ai reçu ici, par exemple, il n'y a pas longtemps, une famille du Vaucluse, qui est venue à Bertonval, qui est un petit bourg qui se situe sur le territoire de Carency, hein, à quelques encablures du Mont-Saint-Éloi. Et ces gens ont perdu leur grand-père le 27 décembre 1914, lors de l'attaque du régiment de chasseurs. Ensuite, j'ai reçu une famille, il n'y a pas longtemps, d'un petit village dans les Deux-Sèvres, un village qui s'appelle Doux, et où le soldat n'a jamais été retrouvé, le soldat Guimbaud, qui est tombé aux ouvrages des Cornailles, du côté de l'attaque entre Angres et Liévin, hein. Donc, précisément sur le secteur de Calonne-Liévin, hein, ce soldat a été disparu à tout jamais, hein, comme beaucoup de soldats sont disparus. Et c'est très émouvant de recevoir les familles et de pouvoir leur expliquer à quelques mètres près, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de changements au niveau des terrains en 100 ans. Mais il y a beaucoup d'émotions qu'on reçoit les familles. C'est vraiment un sacerdoce pour nous de recevoir ces familles et de leur expliquer. Bah, la dernière journée de combat, quand le soldat est tombé, donc on fait des recherches. Moi, je fais des recherches au service historique de l'armée de terre à Vincennes. Je travaille avec les journaux de marche et opérations, avec les historiques des régiments, puis aussi avec les familles, parce qu'ils ont des anciennes lettres, tout ça. Donc on leur prépare des petits livrets. Il y a beaucoup d'émotions quand les familles se recueillent. On les laisse pendant 4-5 minutes se recueillir seuls, quoi, parce qu'on ne peut plus intervenir. On voit des gens pleurer. Mais pleurer de satisfaction aussi, parce que quelque part ils font un peu le deuil de leur famille, même 100 ans après, quoi.
On est toujours par téléphone avec David Robillard, passionné de la Grande Guerre et membre du collectif Artois. Alors, je reviens sur le collectif Artois, dont vous avez cité quelques membres. Quoi ? C'est un collectif aussi de passionnés d'histoire et qui aide aussi comme ça les familles, c'est ça, des victimes de la Grande Guerre ?
Exactement. Le collectif Artois a été créé à l'époque par des gens de Bully-les-Mines. Enfin, le siège est à Bully-les-Mines. Et M. Chopin en est instigateur avec d'autres membres, hein. M. Réan, M. Cornet, enfin plein de gens, hein, je ne peux pas tous les citer, et je leur fais un petit coucou d'ailleurs. Et donc, ils ont travaillé sur la recherche des 96 000 soldats français tombés en Artois. Donc ils ont fait des recherches pendant 3 ans, hein, ça a pris 3 ans, il y a plus de 18 personnes qui s'en sont occupées. Et puis ils reçoivent des familles, j'en fais partie aussi, donc je reçois des familles. Et puis moi, en parallèle, j'ai créé également le Poilu de l'Artois, 1914-1918, hein, une petite structure auto-entreprise, où j'organise des randonnées historiques sur la Grande Guerre, hein, des marches commentées et guidées, parce que je donne aussi des conférences dans les grands sites, dans les grands musées, comme l'Historial de Péronne. J'ai déjà participé à plusieurs expositions, comme la guerre des enfants, la guerre des animaux en 14-18, le Baron Rouge. Donc, j'ai toujours aimé la communication. Alors, j'ai créé une petite activité économique. J'en vis pas forcément parce que c'est très difficile à gérer et je ne suis pas aidé par aucune municipalité, ni département, ni région. Donc j'ai créé une petite auto-entreprise dans le but de transmettre la mémoire. J'en vis pas du tout. Cette auto-entreprise, je l'ai créée suite à un licenciement économique en avril 2014. Je suis en auto-entreprise depuis avril 2014. J'en suis à ma quatrième randonnée. Je fais également des spectacles pour les établissements scolaires, c'est-à-dire les CM2, les troisièmes et également les premières, hein, dans les lycées. Un spectacle qui dure 2 heures, qui s'intitule « Les boueux de l'Artois 1914-1918 », où je viens en tenue d'époque avec une malle de la mémoire. Et là, pendant 2 heures, on part de l'assassinat de Sarajevo jusqu'au terrifiant combat de Notre-Dame de Lorette, de la prise des villages de Carency, Ablain. Un spectacle où tout est dit, où on explique la condition humaine,
la vie dans les tranchées, les animaux, le rôle des femmes. Les femmes très importantes pendant la Grande Guerre. D'ailleurs, je tiens à dire qu'on dit toujours qu'on a gagné la guerre avec le pinard, mais aussi avec les femmes, parce que les femmes ont eu un rôle très très important, parce que c'est eux qui ont travaillé à l'arrière. Il y a également eu tout le corps médical, les infirmières, qui étaient surnommées les anges blancs, qui ont fait un travail non seulement médical, mais aussi de tendresse auprès des poilus qui étaient gravement blessés, leur apporter de l'affection. Je pense aussi à toutes ces femmes qui ont été munitionnettes, qui ont travaillé dans les usines d'armement et en France, et qui n'ont pas eu la chance d'avoir d'enfants, parce que malheureusement, ceux qui étaient en fabrication d'obus à gaz ont malheureusement eu l'impossibilité d'avoir des enfants. Ça a malheureusement tapé sur la partie ovulation de la femme. Donc vous voyez, il y a des choses tragiques quand on pense à cette Grande Guerre. Mais aussi aux enfants, le rôle des enfants pendant la guerre. Ici par exemple, nous avons Paul Mock, un soldat allemand qui a été tué à l'âge de 14 ans. Bon, ben c'est quand même terrifiant. Nous avons le soldat Pouchin, un soldat qui est originaire de Souchez, qui avait 11 ans, qui est parti à la guerre à 11 ans, et bien d'autres enfants, hein, dans l'armée britannique, le plus jeune avait 12 ans, par exemple. Donc quand vous regardez, vous rentrez dans les cimetières militaires, et que vous regardez, et que derrière vous grattez un peu l'histoire, vous voyez les enfants qui sont tombés à 14, 15, 16 ans, c'est dramatique, quoi, c'est dramatique.
Alors, 1914-2014, on va parler avec vous, David Robillard, des commémorations organisées dans la région. D'abord, une première oui. question sur cet anneau de Lorette, hein, qui est quand même, disons, le monument phare, on peut dire, de ces commémorations organisées dans la région. Oui. Comment vous voyez, vous, cet anneau de Lorette mémorial ?
Ben, disons que j'ai un sentiment un peu partagé, un peu mitigé. Je trouve que aujourd'hui c'est un très très beau monument. Enfin, il y a une âme qui ressort de ce monument. C'est bien d'avoir pensé à tous ces gens, mais je pense que je l'aurais pas situé là-haut sur la colline quelque part. Je l'aurais mis à un autre endroit. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on n'a plus cette âme. Lorette n'a plus la même âme avec ce monument. Il y a quelque chose qui a changé. On n'a plus la vue aussi belle qu'il était avant sur nos villages d'Artois, d'Ablain, Carency, Arras, quoi. Je pense qu'on aurait peut-être pu le passer ailleurs. Et aujourd'hui, dans une situation dans notre région économiquement gravement touchée, il aurait peut-être été préférable de faire peut-être quelque chose d'un peu plus petit quand même, parce que ça coûte beaucoup d'argent quand même, quoi. C'est bien d'avoir fait ça, c'est bien d'y avoir pensé et d'avoir réconcilié les pays, que ce soit les Allemands, les Britanniques et les Français. Mais bon, il y a quand même un sentiment partagé, quoi. Parce que je vois que des fois, il y a des vieilles tombes. Comme cette année, j'ai eu l'honneur de participer à une cérémonie au village de Mont-Saint-Éloi-Hac pour la remise en état de la tombe du légionnaire Kenex Wex, qui était un légionnaire qui a été tué le 16 juin 1915 sur la crête de Vigny. Et sa tombe était complètement partie en lambeaux. Je sais que il y a beaucoup de tombes qui sont en train de se détériorer dans les petits cimetières militaires, dans les cimetières communales. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu s'occuper de tous les anciens monuments, les rénover, quoi, avant ?
David Robillard, membre du collectif de l'Artois, il organise régulièrement des marches et des sorties, comme c'était le cas samedi dernier. Alors pour en savoir plus sur ces événements et le collectif Artois, il y a un site internet qui est lorette.canalblog.com. lorette.canalblog.com. Je vous rappelle que ce samedi 1er novembre sur Radio PFM, dans le cadre du magazine Parlons Franf, on sera avec Yves Lemaner, chargé de mission auprès du Conseil Régional, Monsieur Centenaire dans la région. On évoquera les commémorations de la guerre 14-18 et puis les questions que ça pose. Donc rendez-vous sur le 99.9 ce samedi matin de 11h30 à 12h30. Et puis si le sujet vous intéresse, un spectacle proposé dans le cadre du festival Conteurs en Campagne, c'est d'ailleurs le spectacle de clôture, ça s'appelle Le Chemin des âmes, adapté du roman de Joseph Boyden. Ça parle des Amérindiens engagés dans l'armée canadienne pendant la guerre 14-18, avec trois conteurs, Michel Bouet, Jean-Louis Compagnon et Jean-Claude Botton. C'est à voir et entendre à ne pas rater à Neuville-Saint-Va, à la salle des fêtes, ce samedi à 20h. C'est pour un public d'adultes et d'adolescents à partir de 12 ans.